vous donner un indice. Vous savez que les J'aime l'Éternel compte 3 volumes, il y a un peu plus de 1000 chants, je crois. Et ce qui est curieux, c'est que dans tous ces volumes, dans tous ces chants, ces numéros qui existent, il y a un numéro qui n'existe pas. Quel est ce numéro ?
777.
666. Alors 777, je ne sais pas. Il est celui-ci, le 777 ?
Oui.
Ah bah du coup, je vais vérifier, là. Maintenant, tu me... 777. Pas dans ce volume, c'est dans celui-ci. Alors, on va regarder ça. Voilà. Ah, si, il est dedans. Il est dedans. Donc, c'est le 666 qui n'est pas là. Et le mot le plus long de la langue française est en rapport, justement, avec le 666. Et ce mot, est-ce que tu peux le montrer ? S'il te plaît. Hein, normalement, il va apparaître derrière moi sur l'écran. Hein. C'est, je vais essayer de le lire. Hein. Exa, kosioi, exe, conta, exaphobie. Est-ce que tu veux essayer de le dire, hein? Essayez de le dire, là. Essayez. Ah ben, bon, pour le dire, il faut y aller. Hein. Puis pour le retenir par cœur, c'est encore plus difficile. Alors, c'est un mot qui signifie quoi ? Eh bien, c'est un mot tout simplement qui signifie ou qui représente les gens ou les personnes qui ont peur du nombre 666. Vous retrouvez derrière phobos, hein, en grec, qui est la peur. Eh bien, c'est la phobie, la crainte du chiffre 666. Et ce matin, mon message sera en rapport direct avec ce chiffre 666. En réfléchissant, là, il y a deux jours, et en me disant qu'est-ce que je pourrais bien prêcher, j'hésitais entre deux thèmes. Cette thématique qu'on trouve dans Apocalypse 13 et qu'on va étudier dans quelques instants, et puis le psaume 8 aussi qui parlait également à mon cœur, et puis j'en ai parlé à mon fils aîné, et il m'a dit « Ah, papa, vas-y, fais sur le 666 ». Alors il n'est pas là ce matin, mais je lui ai expliqué ce que j'allais mettre dedans, et j'aimerais voir ça avec vous ce matin, et donc le thème de mon message sera 666. Merci. Et donc le thème de mon message ce matin sera 666 avec comme sous-titre « De qui portes-tu la marque ?» Apocalypse 13, on va lire ensemble les versets 11 à 18. Apocalypse 13, versets 11 à 18. Alors l'Apocalypse est un livre qui en même temps est compliqué. Et moi je me rappelle, j'avais un institut biblique, un professeur avec qui j'ai étudié ce livre, qui disait qu'en réalité c'était le livre le plus simple de la Bible, puisque c'était un livre qui était fait d'images. Mais bon, il avait beau dire que c'était simple avec les images, etc., je trouve quand même que ça reste relativement compliqué et un petit peu mystérieux. Alors on lit Apocalypse au chapitre 13, à partir du verset 11, il nous est dit ceci. Ensuite, je vis une autre bête. Donc, il y a la première bête qui nous est décrite au début du chapitre 13. Et puis là, Jean, donc Jean à qui Dieu a donné cette révélation des fins dernières, eh bien, explique ou décrit ce qu'il voit. Il les décrit donc avec ses mots de l'époque, avec ce qu'il connaissait lui-même. Je vis une autre bête montée de la terre. Elle portait deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle, ça nous est raconté au début du chapitre 13. Elle accomplissait des signes miraculeux, faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde. Par les signes miraculeux qu'il lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête et l'image se mit à parler et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse. Sagesse, je vous rappelle, que le Seigneur donne à celui qui la demande. Que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme, c'est-à-dire 666. Eh bien, mes chers, vous avez là un texte qui a fait couler beaucoup d'encre. Et si vous prenez les commentaires bibliques, vous en avez des pages et des pages. Je ne sais combien de livres, d'ouvrages ont été écrits sur la question du 666 et sur ce qui va en parallèle avec le 666, c'est-à-dire la marque de la bête. Et on a proposé toutes sortes d'interprétations derrière ce chiffre. Beaucoup ont essayé de savoir, mais que se cache-t-il derrière ce nombre mystérieux? Qu'est-ce que Jean a voulu dire? À quoi pensait-il lorsqu'il a écrit cela? Est-ce qu'il pensait à quelque chose? Et qu'est-ce que l'esprit qu'il a inspiré voulait en réalité transmettre? Et on a proposé toutes sortes d'interprétations. Et si on a proposé toutes sortes d'interprétations, c'est tout simplement parce qu'en hébreu, comme en grec du reste, chaque lettre a une valeur numérique en fonction du rang qu'elle a dans l'alphabet. Le A égale à 1, par exemple, le B à 2, etc. Donc chaque lettre, que ce soit en hébreu ou alors en grec, a une valeur numérique et donc peut être utilisée. Et souvent, les historiens vont utiliser, pour illustrer cela, ils vont citer une inscription qui a été trouvée à Pompéi où un jeune amoureux a écrit « J'aime celle dont le nom est 545 hein ». Donc, il faudrait que je vous donne la correspondance numérique, hein, pour que vous puissiez dire « Eh bien, celle que j'aime, c'est 737 ou 777 ou que sais-je, quoi ». Mais celle qui portait ce nom-là, c'est reconnue. Chaque lettre a donc une valeur numérique. Et ce procédé, c'est un procédé qui est très prisé par les Juifs. Ça s'appelle la gématrie. C'est une sorte d'interprétation de l'écriture où on essaye d'interpréter, de comprendre l'écriture, justement avec les correspondances numériques qui sont proposées. Et donc, on va faire l'exégèse, c'est-à-dire l'étude de la Bible, en fonction des correspondances numériques. Et là, on arrive parfois à des choses très, très compliquées. Les Grecs aussi utilisaient cela un petit peu, et puis les Latins également l'utilisaient, puisqu'il y a aussi quelques lettres qui ont, ou plusieurs lettres même, qui ont eu une valeur numérique. Alors, quels sont les noms qu'on a vus derrière ce 666? Je ne vais pas tous les lister ce matin, parce que sinon on serait là jusqu'à ce soir 18h, étant donné qu'il y a des livres qui ont été écrits sur le sujet, mais certains ont vu l'empereur Néron. Néron qui est mort, je crois, en 66 après Jésus-Christ, et donc l'Apocalypse de Jean a été écrit à la fin du 1er siècle. Et il est probable que Jean, quand il a écrit l'Apocalypse, pensait peut-être à Néron et aux persécutions que Néron avait fait subir. Et c'est vrai que si on prend le nom de Néron et qu'on lui adjoint le titre qu'il avait, et le titre qu'il avait c'était le César, le Kairos, hein, le maître, le seigneur. Et normalement, César, ce n'était pas simplement celui qui gouvernait, mais il avait une fonction, une sorte de divinité. Et c'est pour ça que les chrétiens ont eu des difficultés, parce que certains accordaient leur allégeance pleine à César et le considéraient comme une sorte de demi-dieu, voire même de Dieu. Eh bien, quand on prend César Néron et qu'on regarde les correspondances numériques, on arrive effectivement à 666. D'autres ont vu Dioclétien. Dioclétien qui a vécu au début du IVe siècle et qui était un empereur romain et qui a malheureusement fait beaucoup de tort aux chrétiens, qui les a persécutés pendant longtemps. Ils ont souffert durement à cause de cet homme-là. Eh bien, d'autres voient derrière le nom de Dioclétien, justement, 666. Et si on additionne la valeur de chaque lettre, on arrive effectivement à 666. D'autres ont vu encore tout simplement le Romain, ou alors, si vous voulez, l'Empire romain. Parce que si on prend le mot grec latéinos, le Romain, on obtient aussi 666. Et donc, pour les premiers chrétiens, on peut comprendre que puisqu'ils subissaient cette oppression de Rome, eh bien, ils cherchaient à interpréter ce qu'ils voyaient dans la Bible, dans les livres qui circulaient, en fonction de ce qu'ils vivaient. Et puis, ces propositions ne s'arrêtent pas au 1er siècle, parce que lors des guerres de religion, par exemple entre catholiques et protestants, qui ont profondément marqué l'Occident, comme vous le savez, là aussi, les uns et les autres se sont jetés l'anathème. Les catholiques disaient que les protestants, c'était 666. Vous en avez même un catholique qui a trouvé, derrière le nom de Luther, le chiffre 666. Hein, et il a dit, ah ben c'est Luther avec sa réforme, avec le bazar qu'il est en train de semer dans toute l'Europe, parce qu'il a semé, il faut le dire, un sacré bazar hein, avec sa réforme. Hein. Ça a été une réforme, pas simplement au niveau spirituel, mais à tous les niveaux. Hein. à ce moment-là. En plus, il y avait l'imprimerie qui venait juste d'être inventée, etc. Et certains ont dit, eh bien, c'est lui l'Antichrist. C'est lui le 666. Et de l'autre côté, les protestants ont dit, mais non, c'est le pape. Parce que si on prend le nom du pape, le pape qui est considéré comme le vicaire du Christ, hein, le vicaire du Christ, si vous prenez cela en latin, vicaire du Christ, hein, ou, eh bien, vous obtenez effectivement aussi 666. Et au Moyen-Âge, c'est le prophète de l'islam, Mahomet, qui a été identifié par le pape Innocent III à l'Antichrist. Et effectivement, si vous prenez la valeur numérique de ces lettres, vous arrivez aussi à 666. Alors, vous comprenez qu'avec tout ça, hein, on ne s'en sort plus, quoi. Hein, on se dit, mais c'est qui, là, 666 ? C'est qui, la bête ? Qui est l'Antichrist ? D'autres, plus tard, ont vu Napoléon. C'est Tolstoï qui a vu Napoléon. Hein. D'autres ont vu Hitler. Et puis tous les dictateurs que notre monde a connus et connaîtra, etc. D'autres ont vu encore derrière 666 Internet, et ils ont dit, ah ben voilà, c'est ça, etc. Bref, il y a de quoi, comme je disais, écrire des milliers de pages, sans parler du fait que vous avez des groupes de métal aussi qui vont utiliser ça, hein, pour se faire de la pub, pour proposer des chansons. Et puis aux États-Unis, par exemple, si vous mettez 666 sur une pochette d'un CD, eh bien, ça suffira à interdire sa vente dans pas mal de supermarchés, parce que là-bas, ils veulent absolument pas voir ce chiffre. Alors, ouais, ça nous fait sourire, quoi. On peut se dire, mais ils sont un peu gaga, quoi, ces Américains. Mais en attendant, nous, on fait guère mieux, puisque dans les J'aime l'Éternel, on a zappé le chiffre 666. Hein. C'est un petit peu comme dans les chambres d'hôtel, vous n'avez pas de numéro 13. Alors que le monde fasse ça, on comprend, hein, tout à fait, mais maintenant que l'Église, le corps de Christ, fasse là... Personnellement, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Que penser de toutes ces interprétations ? Alors, il y a certainement quelques propositions, notamment, comme le soulignent certains spécialistes de l'Apocalypse, il y a peut-être quelque chose de vrai, notamment par rapport à Néron, notamment par rapport à ce que vivaient les premiers chrétiens, parce qu'il ne faut pas oublier que Jean écrit d'abord aux premiers chrétiens. Donc Jean, il a écrit l'Apocalypse à la fin du 1er siècle, c'est le dernier livre de la Bible apparemment qui a été écrit, et donc il écrit pour encourager l'Église, l'Église qui a déjà subi la persécution quelques dizaines d'années auparavant sous Néron, et Jean, puisqu'il est prophète aussi, visionnaire, eh bien l'Esprit de Dieu lui montre qu'il y a des choses encore qui doivent se passer, et par conséquent que l'Église doit continuer et va encore souffrir, et connaître des malades qui vont se lever et qui vont persécuter le corps du Christ. Et donc, on ne faut pas exclure totalement qu'il y a une valeur numérique, hein, qu'il y a quelque chose, une correspondance à rechercher. Mais en même temps, il faut faire très attention. Parce qu'à partir du moment où on plonge là-dedans, on essaye d'identifier un personnage, de chercher une personne clé. À partir de ce moment-là, on va se focaliser, voyez, sur les autres. Et du coup, le texte biblique ne nous parle plus du tout de la même manière. On est là comme un petit peu avec la Bible, comme si on était une sorte de devin en train de chercher, d'essayer de comprendre quelque chose de mystérieux que Dieu aurait caché et qu'il voudrait nous révéler. Et du coup, le texte biblique ne nous parle plus de la même manière et ne nous interpelle peut-être plus comme celui-ci devrait nous interpeller. Alors, sans enlever totalement cette interprétation, je crois que la réponse est à chercher ailleurs. Dans la Bible, vous le savez, les chiffres ont souvent un sens particulier. Et dans la Bible, les chiffres, il ne faut pas chercher derrière quelque chose de particulier, mais ils ont plus une valeur symbolique. C'est le cas, par exemple, je vous en ai parlé à quelques reprises, du chiffre 7. 7, c'est quoi ? 7, dans la Bible, on le voit à plusieurs reprises, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de l'accomplissement. C'est le chiffre de la plénitude. Par exemple, la création, le monde, a été fait en 7 jours. Et dans la tente de la rencontre, vous aviez le chandelier qui avait 7 branches. La prière du Notre Père comprend 7 demandes. Soit la totalité de la perfection de ce que nous pouvons demander à Dieu. S'il y a 7 demandes, ce n'est pas là par hasard, c'est qu'il y a une raison. Jean écrit aux sept églises de l'Apocalypse, qui représentent toutes les églises qui vont venir et qui seront créées sur toute la surface de la terre. Il y a là une notion de plénitude, d'accomplissement de quelque chose de beau, même si dans bien des églises, comme on le sait, il y aura et il y a des difficultés. Et puis sept aussi, comme le remarque quelqu'un, c'est l'union du matériel et du spirituel. Du matériel dans le sens que, eh bien, le chiffre 4 dans la Bible, c'est le chiffre du matériel, c'est-à-dire les quatre éléments, l'eau, la terre, le feu, le vent, ou alors les quatre points cardinaux, on avait parlé de ça la dernière fois lorsque j'avais étudié Ézéchiel 37. Et puis 3, c'est le chiffre de Dieu aussi, hein, dans la Bible, du spirituel plutôt, comme la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, c'est l'union des deux, c'est la plénitude, c'est la totalité, c'est la globalité. Ça représente Dieu et en même temps, ça représente tout l'aspect spirituel et matériel aussi. Et 6, c'est quoi ? Eh bien, 6, c'est simplement 7 moins 1. Alors, il ne faup pas avoir fait maths sup ou alors le CE2 ou la 6e pour savoir ça. Mais c'est dans le sens que le 1 ici, le 1 représente, le 1 qu'on va ôter au 7, ça représente justement l'accomplissement dont j'étais en train de parler. Le 1 ici, ça représente Dieu. Et le juif ou celui qui connaît bien l'Ancien Testament pensera à cette confession de foi que l'Israélite répète tous les jours, à savoir le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Hein, je paraphrase. Et le seul éternel. Et ensuite, tu aimeras ce Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc, à la base de la confession de foi des Israélites et des chrétiens, il y a l'unicité de Dieu qui est proclamée. Et on ferait bien parfois de le rappeler aux musulmans, hein, qui nous accusent plutôt d'adorer trois dieux. Nous n'adorons pas trois dieux, nous adorons un seul Dieu, puisque l'Ancien Testament nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et donc, c'est justement ce 7 auquel on va enlever 1. Et 6 représente donc ce qui est imparfait, puisque Dieu a été ôté de cela. C'est ce qui est défectueux. C'est le refus, c'est le rejet de Dieu, c'est le mal. Et si le chiffre 6 est mentionné 3 fois, c'est tout simplement pour accentuer l'imperfection. C'est pas mal une fois, mais c'est mal 3 fois. Et ce mal est incarné dans le livre de l'Apocalypse d'abord par 3 personnes que vous allez retrouver à plusieurs reprises dans ce livre. Et ces 3 personnes, nous les avons citées plus ou moins tout à l'heure. Il y a d'abord le dragon, ensuite il y a la bête dont il est question au début du chapitre 13, et puis ensuite il y a la seconde bête que plusieurs personnes vont identifier au faux prophète. Alors, c'est pas sûr, hein. Il y a quelques doutes parce que parfois les correspondances sont pas toujours évidentes, mais plusieurs identifient la seconde bête au faux prophète. Et donc, pour chacun d'entre eux, on pourrait leur plaquer un 6. Parce que tous, qu'est-ce qu'ils font ? Le dragon, c'est le diable. Le dragon, c'est celui qui veut essayer de prendre la place de Dieu. Celui qui avait essayé justement de prendre la place de Dieu, et puisqu'il a essayé de prendre la place de Dieu, il a été projeté sur terre, Apocalypse 12 nous raconte cela, avec un tiers des anges qui l'ont suivi dans sa révolte. C'est celui qui veut qu'on l'adore lui. La bête aussi veut être adorée, elle. Et la Bible nous dit, au début du livre de l'Apocalypse, qu'il y a des myriades et des myriades de personnes qui vont l'adorer, qui vont se prosterner devant elle, parce qu'elle va faire des miracles. Et puis la seconde bête aussi. La seconde bête, elle nous dit, elle ressemble comme un agneau. Et donc ça nous fait penser à la personne du Christ. Et ça nous montre quoi ? Ça nous montre que cette seconde bête, ou plutôt ce faux prophète en réalité, eh bien, c'est quelqu'un qui fera penser un petit peu à la personne du Christ. Mais lorsqu'il ouvrira la bouche, nous dit la texte biblique, nous l'avons lu tout à l'heure, il parlera comme un dragon. C'est-à-dire, il parlera comme le diable, comme Satan. Et ceux qui sont élus, ceux qui ont le Christ, qui ont le Christ dans leur vie, ceux qui connaissent le Christ, reconnaîtront tout de suite. Et même s'il y a des miracles, et même s'il y a des prodiges, et même s'il y a des actions extraordinaires qui se passeront au travers de ces trois personnages, y compris aussi eh bien, le faux prophète, eh bien, ce faux prophète-là, en réalité, vient pour séduire. Séduire les nations, et puis pousser les nations à adorer. À adorer qui ? À adorer la première bête et à adorer celui qui est derrière et qui a donné pouvoir à ces deux bêtes, à la bête et au faux prophète, c'est-à-dire le diable lui-même. Et c'est donc dans ce sens-là, déjà dans un premier temps, que nous pouvons comprendre ce chiffre 666. C'est ces trois personnages qui sont mentionnés dans le livre de l'Apocalypse, qui font des miracles, à qui on pourrait penser, qui pourraient nous faire penser à des divinités, mais en réalité, ils ne le sont pas. Ils sont en dessous de Dieu, parce que justement, il leur manque ce numéro un. Il leur manque l'allégeance à Dieu. Du reste, ils ne peuvent même pas. Donc 670, c'est le mal, le refus de Dieu. Et derrière ce faux prophète, derrière cette bête dont il est question au début de l'Apocalypse, au chapitre 13, et derrière le dragon, nous pouvons voir, et les chrétiens et les premiers chrétiens l'avaient très bien compris, nous pouvons voir tous les systèmes humains, politiques, où l'homme règne. Nous pouvons voir aussi tous les systèmes religieux. Nous pouvons voir derrière cela aussi Mammon, c'est-à-dire cette puissance d'argent qui gouverne notre monde et qui fait que des hommes partout, par milliers, vont accorder leur allégeance à Mammon et vont se prosterner devant Mammon et vont se prosterner devant tous ces faux dieux qui nous est proposé. Donc derrière cela, il faut voir ce système politique, économique, religieux qui est sous la puissance du dragon, qui est sous la puissance de Satan. Et cela revient un petit peu, ou cela nous fait penser plutôt à ce que Jean nous dit hein, dans ses épîtres, à savoir que le monde est sous la puissance du malin. Bien sûr, Christ est au-dessus. Christ a remporté la victoire, mais cette victoire, elle est là. Et en même temps, nous attendons ce retour. Et pendant ce temps-là, nous ne devons rien attendre de bon de notre monde. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas être témoins, bien au contraire. Mais nous ne devons pas essayer de le changer, c'est une utopie. Le monde est monde et continue. Et cette puissance est derrière et à l'œuvre. Donc 666, c'est d'abord le mal, le refus de Dieu, caractérisé, focalisé sur la personne du dragon, du prophète ou du faux prophète, et puis ensuite de la bête. Mais le texte nous donne aussi deux autres indices qui nous permettent d'aller plus loin et qui nous concernent personnellement. Que dit le texte ? Que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme. Pas question ici du Fils de l'homme, le Christ par exemple. Non, il nous est dit que ce chiffre, c'est un chiffre d'homme. En disant que c'est un chiffre d'homme, ça veut dire que c'est un chiffre purement humain. Et tout à l'heure, je vous disais que 6, c'était 7 moins 1, mais l'homme a été créé quand ? Il a été créé le sixième jour. Et le septième jour, c'est le jour où Dieu se repose. Et le septième jour, c'est le jour où Dieu va donner sa bénédiction sur la création. Donc c'est un chiffre d'homme dans le sens que c'est un chiffre où Dieu n'est pas présent, où Dieu n'est pas là. Hein ? Tout ce qu'il fait est en dessous. C'est l'être humain qui se prend pour Dieu, c'est l'être humain qui essaye d'accomplir ce vieux rêve que Satan avait fait miroiter à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, à savoir qu'il leur a dit « mais mangez de l'arbre du fruit de cet arbre. Le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu. » Et c'est ça le vieux rêve qui est proposé. C'est le rêve de l'être humain qui est là, qui est presque, on pourrait croire qu'il est presque arrivé au même niveau que Dieu. Et quand on regarde effectivement ce que l'être humain aujourd'hui est capable d'accomplir, parfois on est ébahi, c'est extraordinaire. Et puis en même temps, parfois ça nous fait tellement peur, surtout dans le domaine éthique, quand on pense à la génétique et quand on pense à d'autres choses. On voit qu'il y a une capacité extraordinaire dans l'être humain. Et certains, eh bien, focalisent tellement tout sur eux qu'ils se prennent presque pour des dieux. Mais en réalité, c'est toujours en dessous. Et le fait que le chiffre 6 soit rappelé trois fois, ça souligne quelque part eh bien, que l'être humain n'arrive jamais. C'est toujours mauvais, c'est toujours en dessous. On peut ajouter autant de 6 qu'il veut, tu resteras toujours en dessous. Ça ne sera jamais le 7, ça ne sera jamais la plénitude, ça ne sera jamais la perfection. C'est l'être humain livré à son péché. C'est l'être humain livré à ses pensées. C'est l'être humain qui croit qu'il peut se passer de Dieu, qu'il peut se passer du un, qui, justement, ce un lui manque. Ce un qui pourrait faire toute la différence n'est pas là, parce que tout est basé sur lui-même. Et puis dans le texte, vous avez aussi un second indice qui va dans le même sens et qui nous concerne aussi de manière directe. C'est ce que je lisais tout à l'heure dans les versets 16 et 17. Avant que le chiffre 666 soit donné, à la fin du passage, il est question de ceci au verset 16 et 17. Il fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite et une marque sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom, c'est-à-dire 666. Hein. Alors là aussi, cette marque sur le front ou sur la main droite a fait couler beaucoup d'encre. Et les gens se sont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire cette marque-là? Et on a cherché toutes sortes de trucs, et ces dernières années, vous en avez peut-être entendu parler, il y en a même qui ont prêché là-dessus, qui vous disent qu'en réalité, cette marque sur le front ou cette marque sur la main droite, c'est cette fameuse puce qu'on appelle la puce RFID, une puce de la taille d'un grain de riz, une puce dans laquelle on arrive à mettre plein d'éléments d'information. Étant donné que tout est miniaturisé aujourd'hui de plus en plus, là-dedans vous pouvez mettre le code de la sécu, vous pouvez mettre tous vos comptes bancaires, vous pouvez mettre tout votre parcours de santé, bref, vous pouvez mettre tout là-dedans, tout, tout, tout. Donc plus besoin de cartes, hein, plus besoin, mesdames, d'ouvrir le porte-monnaie là avec les 50 cartes que vous avez parfois, puis vous savez plus laquelle il faut donner. Hein, on propose de tout mettre dans une puce, et puis vous passez dans un supermarché, vous passez quelque part, et puis paf, on vous scanne le machin, et on vous reconnaît immédiatement. Et en plus, ce que les savants ont vu, c'est que pour cette puce, pour qu'elle prenne bien dans notre corps, là où elle prend le mieux, c'est justement sur la main droite, et sur le dessus de la main droite, ou alors, pour les handicapés, on disait que c'était mieux de le mettre sur le front. Et certains se sont dit, ah mais voilà ce que l'Apocalypse nous dit, hein, c'est cette fameuse puce. Alors que faut-il penser de cette interprétation ? Personnellement, moi, je n'irai pas dans ce sens-là parce que, une fois encore, si on identifie la marque à une puce ou à autre chose, à mon avis, on risque de faire fausse route. Et du coup, le texte biblique ne nous parle plus de la même manière. Et du coup, aussi, on se dit, mais dans ce cas-là, ce texte avait été donné déjà à des premiers lecteurs. Et pour eux, alors, ils sont obligés d'attendre ou ils vont apprendre un jour que c'était finalement quelque chose qui était prévu pour 1900 ans ou 1700 ans après ou 2000 ans après. Il faut chercher l'interprétation ailleurs, la réponse est ailleurs. Et se poser la question, mais dans la Bible, qu'est-ce que ça représente le front ? Que représente le front et que représente la main droite dans la Bible ? On trouve un élément de réponse dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 11, verset 18, où il est question des commandements de Dieu, et où Dieu dit à Moïse, qui apparemment a écrit le livre, le Pentateuque, hein, les cinq premiers livres de la Bible, il nous est dit ceci, « Mettez mes commandements dans votre cœur et dans votre âme. Vous les attacherez comme un signe sur vos mains et ils seront une marque entre vos yeux. » Ce que Dieu dit, il ne dit pas « Voilà, vous prenez ces commandements, vous allez les mettre là. » Maintenant, on sait que certains juifs pieux ont pris ça à la lettre. Et c'est pour ça que vous avez des juifs pieux qui ont des phylactères, c'est-à-dire des morceaux de cuir. Et sur ces morceaux de cuir, à l'intérieur, il y a des versets de la Torah, justement, qui sont écrits. Pourquoi ? Parce que la main droite, dans la Bible, c'est la main de l'autorité. Christ, lorsqu'il est ressuscité, il a été établi et mis à la droite de Dieu. À la droite de Dieu, c'est le symbole de celui qui a la puissance, celui qui a l'autorité. Et la main droite représente aussi toutes les actions des êtres humains. Et donc, en mettant ces phylactères comme certains, ou alors en prenant le sens de ce passage dans un sens symbolique, c'est-à-dire, eh bien, vous les mettrez sur votre main, ça veut dire que dans tout ce que vous allez faire, dit Moïse, vous allez penser à la loi de Dieu. Quand tu vas aller travailler, tu penseras à la loi de Dieu. Avant de lever ta main pour frapper quelqu'un, eh bien, tu penseras justement à cette loi qui dit que tu n'as pas le droit de toucher ton prochain. Et quand la Bible dit « tu le mettras là sur ton front », le front ça représente les pensées, ça représente le pouvoir décisionnel, ça représente l'ordinateur central qui commande tout. Et donc Dieu est en train de dire à son peuple ici, eh bien ces commandements, tu vas les graver dans ton esprit, tu vas les graver dans ta main. Ça veut dire qu'ils vont imprégner toute ta vie. Pas simplement tes pensées, mais aussi tes actes, et tu vas y penser tout le temps. Et certains juifs pieux, eh bien, l'ont mis autour d'eux. Certains juifs, vous avez, ils ont aussi la petite boîte, je ne sais pas comment ça s'appelle, sur la tête. C'est justement pour que leurs pensées soient nourries. Mais au-delà d'un signe visible, matériel, ce que Dieu dit, c'est quelque chose qui doit être ancré en nous. Ancré dans notre cœur, ancré dans nos pensées. Et cette marque sur la main et le front représente justement la marque d'appartenance de l'homme à la bête, au faux Dieu. Et pour les premiers lecteurs, vous savez, c'était quelque chose de parlant. Parce que les premiers lecteurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, eux, ce qu'ils connaissaient, c'était Rome. Eux, ce qu'ils connaissaient, c'était la puissance de Rome. Eux, ce qu'ils connaissaient, c'était César qui se prenait pour un dieu. Et on sait aussi combien les chrétiens et les premiers chrétiens ont souffert. Et ils ont souffert beaucoup à cause de cela. Certains ont donné leur vie parce que justement, ils ne voulaient pas avoir cette marque sur eux. Et cette marque, c'était quoi? Cette marque, c'était l'allégeance à Rome. C'était l'allégeance à un autre Dieu que le seul Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et donc, cette marque, ce n'est pas quelque chose de visible qu'on verra sur la main ou sur le front. Cette marque, elle se trouve au fond de chacun d'entre nous. Et la question qui se pose, c'est moi, à qui est-ce que j'ai donné mon allégeance? Et ça, c'est quelque chose que les autres ne peuvent pas voir tout de suite, mais que Dieu peut voir, parce que Dieu y voit dans notre cœur. Et c'est ça la question qui est posée derrière cela. Et d'ailleurs, la suite des chapitres le montre, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Parce qu'il a laissé cette marque, et cette marque c'est quoi? C'est l'allégeance à notre système, c'est l'allégeance à Mammon, c'est l'allégeance à d'autres dieux, c'est rester, moi, sans Dieu, sans le Christ, et faire comme moi je veux. Et c'est de cela, en réalité, dont il est question dans ce passage. Et puis, à l'inverse de cette marque qui caractérise ceux qui ne croient pas en Jésus et ne le veulent pas dans leur vie, il nous est dit aussi que les chrétiens, eux, sont également marqués. Et c'est dit juste après le chapitre 13 qu'on a lu. Apocalypse 14, verset 1. « Après cela, je vis l'agneau debout sur le mont Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit où ? Sur leur front. » Et ces 144 000, ce n'est pas les témoins de Jéhovah, hein ? Ils n'ont pas l'exclusivité. Hein ? Ces 144 000, ça représente quoi ? Ça représente les 12 tribus d'Israël multipliées par 1000. Autrement dit, ça représente l'ensemble des croyants. Tous ceux qui ont accordé leur allégeance à Jésus-Christ. Donc autrement dit, tous ceux qui croient en l'agneau, dont l'agneau, c'est-à-dire le Christ, est le numéro un dans leur vie, tout cela, ils ont, toutes ces personnes, ils ont dans leur cœur, dans leur vie, sur leur front, sur leurs mains, c'est-à-dire non pas le nombre de la bête ou le chiffre de la bête 666 ou autre chose, ils ont, hein, j'allais dire comme Joël le disait tout à l'heure, 777, quoi, enfin c'est pas dit dans le texte biblique, mais ils ont le signe du Père et du Fils. Ils sont gravés du nom de Dieu. Et même s'ils vivent des persécutions, comme ça a été le cas des premiers chrétiens, même si certains ont été déchirés dans l'arène, même si certains ont perdu toute leur famille, eh bien ce sont des personnes qui sont signées, non pas des hommes, non pas du principe de ce monde, mais qui sont signées par Dieu. Comment ne pas penser à nos frères et sœurs qui vivent la persécution, hein ? Et c'est dans ce sens-là que tout d'un coup, ce texte prend aussi une couleur autre pour nous, puisqu'à un moment donné, dans ce texte, il nous est dit que ceux qui ont ce signe ne peuvent pas acheter et ne peuvent pas vendre. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Acheter et vendre, c'est quoi? Acheter et vendre, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est vivre tout simplement. Et les premiers chrétiens, lorsqu'on leur a refusé de vivre leur foi, certains ne pouvaient plus acheter, ne pouvaient plus vendre. Et dans certains pays, et Michel pourrait mieux vous le dire, aujourd'hui, vous allez dans ces pays-là, et dans ces pays-là, eh bien, les chrétiens, on leur confisque leurs papiers d'identité. Dans d'autres endroits, on va les stigmatiser, on va mettre le nom de chrétien. Dans d'autres endroits, ils ne pourront plus faire le commerce comme ils veulent. On va leur interdire certains postes, on va leur interdire certaines fonctions. Eh bien, c'est pour eux que ce texte a été écrit. Et quelque part, ça peut nous gagner, nous aussi. Ça ne veut pas dire que ça arrivera à tout le monde, mais ça veut dire qu'à partir du moment où nous avons accordé notre allégeance à Jésus-Christ, nous pouvons rencontrer des persécutions, parce que la bête est là, le dragon est là, le faux prophète est là. Et sans cesse, ils ressurgissent au cours de l'histoire de l'Église, et ils empêchent les chrétiens de vivre leur foi. Et à un moment donné, les chrétiens, ce n'est pas notre cas aujourd'hui, mais à un moment donné, les chrétiens, ils doivent se positionner. Et quand ils se positionnent, ils vont dire non à César. Et ils ont été persécutés. Ils vont dire non à tel dictateur. Ils vont dire non à tel système de pensée. Ils vont dire non à maman. Ils vont être stigmatisés. Et il y a des choses qui vont leur être refusées. Ils ne peuvent plus vendre, ils ne peuvent plus acheter, ils ne peuvent plus vivre comme ils le souhaitent. Parce que leur allégeance est non pas aux six, mais leur allégeance est aux sept. Vous me suivez? Et à l'époque où Jean écrit cela, eh bien, c'était des choses qui n'étaient pas encore arrivées, mais qui allaient arriver plus tard, qui allaient se manifester. Alors je conclus avec cette pensée en disant simplement qu'il y a là un message fort dans ce passage qui nous est communiqué et un message qui nous concerne directement. Et la question que pose ce passage est simplement cette question que je mettais en dessous de ce thème du message ce matin, 666, et la question c'est simplement de qui veux-tu porter la marque ou alors de qui portes-tu la marque ? Ce soir, il y en a qui vont porter peut-être le maillot des Bleus, hein, ou alors des autres. Mais bon, si vous aimez bien le foot, vous ne pouvez pas porter les deux maillots, quoi. Hein. Vous ne pouvez pas mettre le maillot des Français et puis des shorts en bas des Portugais, je ne sais pas, quoi. Enfin, c'est toujours possible, hein. Aujourd'hui, on voit de tout, quoi. Hein. Mais normalement, quand on est pour une équipe, on est pour l'équipe à fond. Alors là, ça ne nous engage pas beaucoup, surtout derrière notre poste de télévision, avec la bière et les chips et les pop-corn, etc., hein. Là, c'est ou avec les amis, ou le petit barbecue que certains vont faire, c'est bien sympathique. Là, la question est beaucoup plus cruciale. Qui est-ce qui m'a marqué? Ce que Jean, qui a écrit l'Apocalypse, est en train de dire, là, c'est que nous avons tous une marque. Soit nous avons la marque de Dieu, qu'il a imprimée en nous. Cette marque, c'est la loi dans notre cœur. Cette marque, c'est Jésus-Christ qui est venu. Et Dieu, il le sait. Pas besoin de le mettre, pas besoin de mettre un poisson sur ta voiture. Cette marque-là, ce n'est pas c'est la poisson sur la voiture, hein. C'est la marque en nous, dans notre cœur, dans nos actes. C'est ça qu'il voit. Et si ce n'est pas cette marque-là, forcément, c'est la marque de la bête. C'est le chiffre 666. Donc 666, ce n'est pas un groupe de métal. 666, ce n'est pas Néron. 666, ce n'était pas Hitler ou que sais-je. C'est cette marque qui m'imprime. Soit mon allégeance, je l'ai donnée au Seigneur, soit je la donne à quelqu'un d'autre. Et dans ce sens-là, le texte de l'Évangile que Jésus dira à un moment donné, à savoir que nul ne peut servir deux maîtres, eh bien, prend aussi tout son sens. Tu ne peux pas servir le 6 et tu ne peux pas servir le 7 en même temps. Ce n'est pas possible. Soit je sers un et je suis à fond pour lui, et si je ne le sers pas, eh bien, forcément, je sers l'autre. De qui portes-tu la marque ? Moi, je sais qui m'a marqué. Parce qu'un jour, j'ai donner mon allégeance au Christ. Et si ce matin, eh bien, tu n'as pas donné encore ton allégeance au Christ, et que c'est encore le 6 ou le 3 fois 6 qui est là dans ta vie, parce que tu penses que sans Dieu tu peux t'en sortir, eh bien cette marque, elle peut s'effacer. Cette marque, elle peut partir. Le seul qui puisse enlever cette marque-là, c'est Dieu. Et à partir du moment où moi je me repens de mes péchés, où je dis oui à Jésus, je suis marqué pour ce temps et pour l'éternité du sceau de Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons ce matin nous prosterner devant toi. Tu es celui, nous l'avons dit, nous l'avons chanté, qui a remporté la victoire. Tu es celui, Seigneur, qui a défait à la croix le dragon, la bête, la seconde bête et faux prophète. Tu es celui, Seigneur Jésus-Christ, qui donne la force aussi à ton peuple. Seigneur, nous voulons que ce soit toi qui marque nos vies. Nous ne voulons pas être marqués par les principes de ce monde, même si nous sommes dans ce monde et que nous jouissons des choses qui sont là parce que tu nous les as données, Seigneur. Nous ne voulons pas que ce soit ces choses-là qui conduisent nos vies et nous ne voulons pas accorder notre allégeance, Seigneur, à aucun système. Le seul à qui nous voulons accorder notre allégeance, c'est toi. Le seul que nous voulons suivre, c'est toi, Seigneur. Nous voulons que nos mains, nos pensées, nos actes, notre être tout entier soit marqué par toi. et non pas conduit par l'esprit de ce monde, mais conduit par toi, Seigneur, conduit par la puissance de ton Esprit Saint. Et Seigneur, nous voulons cela pour nos vies. Et si quelqu'un n'a pas encore fait ce matin, si vous n'avez pas fait cette allégeance à Jésus, eh bien moi je vous laisse quelques instants maintenant dans votre cœur. Vous pouvez lui dire, Seigneur, moi je ne veux plus être le 6. Je ne veux plus que ce soit ça qui soit dans ma vie. Hein? Jusqu'à présent, c'est moi qui étais là, mais tous ces efforts, tout ce que moi j'ai pu faire, j'ai compris que c'est du vent. Tout ça, c'est du péché. Moi, je veux que tu viennes dans ma vie, Seigneur. Et c'est à toi que je veux confier, donner mon allégeance. Je ne veux pas être marqué par l'ennemi. Je veux être marqué par toi. Vous pouvez lui dire, vous pouvez lui demander ce matin qu'il vienne vous marquer. Et ensuite, vous pouvez vous décider à le suivre, lui.